Donc, je vais vous parler des dernières nouvelles de l'eau sur Mars. Parce que ça fait à peu près 10 ans que Mars Global Surveyor a découvert des nouveautés aquatiques martiennes dont je vais parler et qu'est-ce qu'on a vu depuis une dizaine d'années. Alors, avant de commencer, je rappelle que sur Mars, il ne fait pas très chaud. La température moyenne est de moins 50 degrés et la pression est de 0,6% de la pression terrestre, c'est-à-dire pas grand-chose. Alors, en ce moment, il y a de nombreuses sondes qui tournent autour de Mars. Il y en a deux ou trois. Il y en a deux qui roulent sur Mars. Il y en a une qui se dirige vers Mars. Pourquoi cette armada de sondes, une européenne, tout le reste américaine? Parce que on se pose toujours un certain nombre de questions à propos de l'eau sur Mars. Non pas sur l'existence de l'eau sur Mars, mais certaines questions sur l'eau sur Mars. Alors, l'eau sur Mars, c'est une très vieille histoire. Quand je dis très vieille, c'est parce qu'elle commence en 1666. Cassini découvre des calottes polaires au nord et au sud sur Mars, donc sous le règne de Louis XIV. Et pour lui, évidemment, c'est de la neige ou de la glace. Il voit quelque chose de blanc, il ne pense pas tout de suite à la chantilly, il pense à la neige et à la glace. Alors, les télescopes faisant des progrès, on s'est aperçu que ces calottes polaires changeaient de taille avec les saisons et tout ça. Et voici un dessin de Camille Flammarion, je crois, qui date de 1877, et on pouvait, au cours des semaines, des mois, étudier la variation de taille de ces calottes polaires. Alors voici une image du télescope spatial, entre l'hiver et l'été martien. Vous voyez la calotte polaire nord, en l'occurrence, qui diminue considérablement de taille, pour être, pendant l'été, ce qu'on appelle la calotte résiduelle, c'est la calotte permanente, celle qu'il reste même au plus chaud de l'été. Donc, les calottes polaires de Mars sont connues depuis très longtemps. Ces calottes polaires, j'ai dit que ça pouvait être de la chantilly. C'était une hypothèse envisageable jusqu'en 1964. En 1964, un soviétique dont tout le monde oubliait le nom, confirme, avec des observations spectroscopiques depuis la Terre, que la calotte polaire nord est faite de glace d'eau, H2O. Donc, depuis 1964, des spectres prouvent qu'au moins la calotte polaire nord est faite de glace d'eau. Là, c'est un spectre plus récent qui date de 1982, mais qui confirme, qui affine les résultats soviétiques. Et puis, comme c'est américain, on en parle beaucoup plus. Donc, de temps en temps, vous entendez peut-être des journalistes dans une grande chaîne de télévision qui parlent « on va aller enfin savoir s'il y a de l'eau sur Mars ». Les journalistes, alors je ne sais pas combien ça fait, 2007 moins 1666, mais ça fait un certain nombre de siècles de retard. Donc, l'eau sur Mars, on le sait depuis des siècles qu'il y en a. Il n'y a donc pas de problème de l'existence d'eau sur Mars. Il y a deux problèmes, où elle est, quel état, quand, où, comment. C'est ça le problème de l'eau sur Mars, ce n'est pas son existence ou son inexistence. Alors un petit rappel de ce que j'aurais pu faire comme conférence il y a 15 ans, essentiellement avec les résultats vikings qui datent des années 1976-77. Donc tout ce que je vais vous dire là, j'aurais pu vous le dire il y a 15 ans. Où trouve-t-on de l'eau sur Mars? La réponse est partout. Alors évidemment sur la calotte polaire. Alors ici, c'est la calotte polaire nord résiduelle, en fin d'été donc. C'est quand même une calotte de belle taille, hein. Elle a à peu près le volume de la calotte du Groenland. Si cette calotte fondait, et c'est de l'eau prouvée depuis 1964 par ce malheureux soviétique anonyme, si cette calotte fondait, ça recouvrirait Mars d'une vingtaine de mètres d'eau liquide partout. Et donc quand même des quantités très respectables. Il y a de l'eau dans la vapeur d'eau de Mars. Viking l'a bien mesuré. Si on condensait l'eau de la vapeur de Mars sur Mars, ça ferait une couche de 12 microns d'épaisseur. Alors ça, c'est pas beaucoup, 12 microns, ça fait à peu près 2 globules rouges par la tranche l'un sur l'autre. Hein. C'est pas beaucoup, mais l'eau se trouve dans l'atmosphère et ça donne l'occasion de faire des nuages. Ce que vous voyez là, c'est un tourbillon de nuages, c'est pas une photo de la météo le soir sur la Bretagne, c'est une dépression martienne et non pas bretonne. L'eau, il y en a dans le sous-sol. Quand une météorite tombe sur la Lune, ça fait boum. Quand une météorite tombe sur Mars, ça fait splotch. Parce qu'il y a de la glace dans le sol de Mars, la chaleur de l'impact fond la glace, et les éjecta, plus que de la roche broyée, c'est de la boue. Et la boue coule autour du cratère et va finir par geler, n'oubliez pas qu'il fait en moyenne moins 50. Connaître la quantité d'eau qu'il y a dans ce sous-sol martien est une des grandes questions actuelles. Il y a de l'eau dans le sol, quel pourcentage? Alors cette eau a permis des glissements de terrain qui ressemblent à des coulées de boue, toujours des vieilles photos vikings, ou qui aurait pu être prise par Viking. Vous avez ici une vallée, dont vous voyez une cinquantaine de kilomètres de large, avec une falaise ici et une falaise là, et de deux versants de la falaise sont tombées deux gigantesques coulées boueuses, il y en a une au sud ici, et qui s'est fait recouvert au nord par celle-là. Des coulées de boue sur Mars. Sur Mars, l'eau, il y a un certain temps, a gelé et dégelé en surface. Sur Terre, quand le sol est gelé en permanence, en profondeur, le cas de la Sibérie par exemple, et qu'il dégèle sur quelques mètres d'épaisseur pendant l'été, les alternances gel, dégel, chaque été, chaque hiver, sur un sol gelé en permanence, ça fait ce que les géologues connaissent bien, qu'on appelle des sols polygonaux. C'est une morphologie caractéristique des alternances gel-dégel sur un sol gelé en profondeur. Ça, c'est des sols polygonaux martiens, terrestres. En Sibérie, ça, c'est la Léna. Et ça, ce sont des sols polygonaux martiens. L'échelle est presque la même, un petit peu plus petite. Mais ça veut dire que sur Mars, il y a un certain temps, l'eau a gelé et dégelé. Sur Mars, dans un passé lointain, l'eau a coulé. C'est toujours connu depuis Viking. Et Viking, il y a donc 30 ans, nous a montré, même Mariner 9 un peu avant, ces magnifiques photos de réseaux hydrographiques avec des petites rivières qui se jettent dedans pour faire des moyennes rivières, qui elles-mêmes se jettent pour faire des grandes rivières. Et voici par exemple un détail de la vallée de cette rivière ici, qui, avec des méandres, des terrasses alluviales, de l'eau a coulé. Il y a à peu près 3,8 milliards d'années, disait-on, dans les années Viking. Dans un passé un peu moins lointain, on disait 3,5, 3,6 milliards d'années dans les années vikings, l'eau, qui est sous forme de glace dans le sol, a dégelé en abondance tout d'un coup, sous forme de débâcle, par exemple parce qu'il y avait une éruption volcanique qui faisait fondre beaucoup de glace. Et il y a des rivières, mais énormes, qui ont coulé pendant un temps bref. Vous avez ici l'embouchure d'une rivière qui fait plus de 100 km de large, la rivière, et qui se jette ici dans les grandes plaines du Nord. Alors une parenthèse, on ne voit pas très bien, mais vous devinez, au moins c'est du premier plan, un ellipse là. C'était l'ellipsoïde de confiance d'atterrissage de Pathfinder, le premier robot qui a atterri après les Vikings. Alors les Américains avaient décidé de le mettre là. Le but de Pathfinder, ce n'était pas de faire de la géologie, c'était de mettre au point des techniques d'atterrissage. Mais ils se sont dit, tant qu'à faire, si ça marche, autant faire un peu de géol. Alors ils ne pouvaient pas faire un grand parcours, ils pouvaient faire une centaine de mètres tout au plus. Ils ont dit, si on se pose dans une plaine et qu'on fait 100 mètres, on voit toujours le même caillou. Là, on est dans un delta. Donc un delta, ça ramène des cailloux qui viennent de n'importe où, du bassin versant de cette rivière. Donc en faisant 100 mètres, on a la probabilité de voir des cailloux différents. Alors ils se sont posés là parce qu'ils savaient que de l'eau avait coulé là. Et alors en se posant, le paysage était caractéristique des coulements d'eau. Et les journalistes qui disent n'importe quoi ont dit, regardez, c'est la preuve que de l'eau a coulé là. Évidemment, ils se sont posés là parce qu'on savait que de l'eau avait coulé là. Donc c'est une vieille histoire, l'eau sur Mars, comme je dis. Alors pourquoi actuellement il ne peut pas y avoir d'eau sur Mars, d'eau liquide sur Mars, à cause de la pression de la température? J'ai ici de l'eau dans cette bouteille. Je suis à peu près à 20 degrés, j'ai une atmosphère, je suis dans le domaine liquide. Si je refroidis cette bouteille vers 0 degré, je passerai dans le domaine de la glace. Si je chauffe cette bouteille vers 100 degrés, je passerai dans le domaine de la vapeur. Donc, à la pression atmosphérique, une atmosphère, je passe de la glace au liquide, du liquide au gaz. Si je fais la même manip à une pression très faible, qui est égale à la pression martienne, l'eau liquide ne peut pas exister. Si j'ai de la glace et que je chauffe ma glace vers 1 degré peut-être, la glace va se sublimer, va devenir directement vapeur. Si je prends de la vapeur et que je la refroidis, elle va devenir directement solide. Si je fais une expérience amusante, je prends une thermos pressurisée avec de l'eau liquide à 20 degrés dedans. Je vais sur Mars et je débouche ma bouteille thermos et je renverse l'eau par terre. Qu'est-ce qu'elle va faire l'eau? Elle est à 20 degrés, sur Mars il fait moins 50, en quelques dizaines de secondes elle va geler. Mais avant de geler, qu'est-ce qu'elle va faire? Comme elle a une pression très faible, je peux regarder sur ce diagramme la température à laquelle bout l'eau, et je vois que l'eau bout à 0 degré. Donc si j'ai de l'eau à 20 degrés, elle bout énormément. Donc si je renverse cette eau sur Mars, j'ai l'eau qui coule, qui passe de 20 degrés à 0 degré en quelques dizaines de secondes, et pendant qu'elle se refroidit, elle bout, en restant évidemment à une température froide. C'est pour ça que je ne peux pas avoir d'eau liquide sur Mars, elle ne peut être que solide ou gazeuse. Alors, voilà deux des grandes questions qu'on se pose en 2007 sur Mars. C'est pas est-ce qu'il y a de l'eau sur Mars? Bien sûr qu'il y en a. C'est depuis quand est-ce qu'il n'y a plus d'eau liquide en surface? Il y en a eu, il n'y en a plus, en tout le moins, c'est ce que la majorité des gens disent. Depuis quand? Deuxième question, cette eau liquide qu'il y a eu, est-ce que c'était de l'eau transitoire ou de l'eau pérenne? Alors, je vais tout de suite vous dire ce que c'est que de l'eau transitoire et de l'eau pérenne. De l'eau pérenne, c'est de l'eau qui est tranquille. C'est la Loire, alimentée par des pluies, des sources. Il y a des vignobles sur le bord, du Saumur, du tout ça. C'est de l'eau tranquille, pérenne. Et puis, il y a l'eau catastrophique. Vous avez ici un glacier en Islande. Il y a 600 mètres de glace. Et de temps en temps, il y a une éruption volcanique qui se passe sous la glace. Vous avez ici la fumée qui sort. Évidemment, une éruption volcanique sous la glace, ça fait fondre la glace. Et pendant le temps de l'éruption, il y a de l'eau liquide qui sort plus ou moins. Mais dès qu'elle sort, sur Mars, elle gèle. Vous avez donc de l'eau transitoire qui n'est absolument pas pérenne. On a quand même derrière la tête l'idée de la vie sur Mars. Ça, c'est bon pour la vie. Ça, c'est vraiment pas bon pour la vie. Donc, c'est pour commencer à répondre à ces questions, et en particulier ces deux questions-là, qu'il y a plein de sondes qui sont en orbite, qui ont été en orbite, qui vont aller en orbite, ou qui se promènent sur Mars. Alors, je vais surtout vous parler, enfin, au moins la moitié de mon exposé, des résultats des sondes en orbite. Parce que les robots, d'abord, j'en ai parlé il y a 2 ans, et il y a peut-être des gens qui étaient là il y a 2 ans, mais j'ai dit, je ne vais pas en parler de Mars, j'en ai parlé il y a 2 ans, mais la femme a dit, si, il faut en parler, tu verras, c'est bien, etc. Bon, alors, j'en parle. Mais je vais surtout parler des histoires en orbite, et puis je parlerai des robots sur la fin. Un petit peu quand même. Alors, on sait depuis Viking qu'il y a de la vapeur d'eau dans le sol. Les missions en orbite, on peut mesurer ça avec une beaucoup plus grande précision. Vous avez ici, c'est un planisphère de Mars, la quantité de vapeur d'eau dans le sol, plus c'est vert, plus il y en a, plus c'est rouge, violet ou bleu, moins il y en a. Et vous voyez, c'est une photo prise l'été, et bien là où l'atmosphère est le plus humide, c'est à peu près sous le tropique martien pendant l'été. Exactement comme sur Terre. Donc c'est là qu'il y a le plus d'eau. Alors il n'y en a pas beaucoup ici. Si toute la vapeur d'eau de l'atmosphère précipitait, ça ferait une couche de 30 microns. En moyenne, je vous rappelle que c'est 12. Mais là donc, les sondes peuvent faire de la météorologie martienne sans aucun problème. Alors il y a de l'eau dans le sol. On a vu que les cratères, quand ils tombaient, ça faisait splutch. Quelle quantité de glace y a-t-il dans le sol? Alors dans le sol, je ne vais pas pouvoir vous le dire. Dans le sous-sol profond, je vais pouvoir vous le dire dans le sol superficiel. Vous avez ici l'affiche d'un film, La bataille de l'eau lourde. L'eau lourde, c'est de l'eau faite avec de l'hydrogène 2, c'est-à-dire du deutérium, qui a des propriétés particulières vis-à-vis des neutrons. Et c'était un des enjeux d'une bataille entre les Anglais et les Allemands pendant la dernière guerre mondiale, les Anglais soupçonnant les Allemands de vouloir faire une bombe atomique. Et pour faire une bombe atomique, il fallait ralentir des neutrons de certaines façons, et pour faire ça, il fallait de l'eau lourde. L'eau lourde était en Norvège, et les Anglais sont allés faire sauter les réservoirs d'eau lourde. D'où l'affiche. Alors, Mars reçoit des rayons cosmiques. Il n'y a pas de champ magnétique, il y a très peu d'atmosphère, les rayons cosmiques arrivent au sol. Ces rayons cosmiques provoquent des réactions nucléaires. Ces réactions nucléaires fabriquent des neutrons. S'il y a du deutérium, c'est-à-dire de l'eau dans le sol, ces neutrons sont ralentis. S'il n'y en a pas, ils ne sont pas ralentis. Il suffit de se mettre en orbite autour de Mars, de mesurer la vitesse des neutrons, et en fonction de la vitesse des neutrons, on saura quelle quantité de deutérium, c'est-à-dire d'hydrogène, c'est-à-dire vraisemblablement d'eau, il y a sur Mars. Et voici le résultat de la carte. Alors, ça analyse la quantité d'eau dans les 2 premiers mètres de Mars. C'est pas très profond, mais ça moyenne ce qu'il faut sur les 2 premiers mètres. Quand c'est bleu, c'est qu'il y a beaucoup d'eau, quasiment 60%. Et quand c'est marron, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup, à peu près 2%. Quand c'est violet, c'est que c'est de l'eau pure, c'est la calotte glaciaire, on devine la calotte glaciaire polaire nord, qui est de la glace, mais ça on le savait depuis longtemps. Et vous voyez qu'autant l'équateur est relativement sec, 4% d'eau, c'est déjà pas mal 4% d'eau. Hein. Il y a des paysans qui cultivent du maïs en pays sec, qui seraient contents d'avoir 4% d'eau. Alors ils sont obligés d'arroser pour ça. Mais plus vous montez vers les hautes latitudes, plus il fait froid et plus le sol est humide. Humide au point de vue glace, je répète. Et vous avez, par exemple, par ici, 15% d'eau en quantité dans les 2 premiers mètres superficiels. Donc de l'eau, sur Mars, il y en a vraiment beaucoup. Alors, il y a 2 sondes, dont une sonde européenne, dont là, j'ai dit une, la sonde européenne, hélas, qui avait un radar dont le but était de mesurer l'épaisseur des couches de glace, alors de glace pure dans le cas des calottes, ou de sol riche en glace dans les zones non polaires. Alors vous aviez le radar qui envoyait des ondes. Certaines de ces ondes se réfléchissaient à la surface, d'autres pouvaient pénétrer dans le sol et se réfléchir sur des limites glace-sol. Alors vous avez ici la calotte polaire nord, vous avez ici un trajet de la sonde Mars Express, donc notre sonde européenne, Et voici l'enregistrement radar que ça donne. La ligne blanche que je suis avec mon point vert, c'est le sol. Et la ligne du haut, c'est le haut de la glace. Et on a pu estimer l'épaisseur de la couche de glace sur ce trajet. Ici, la couche de glace fait à peu près 1 mètre d'épaisseur. Donc, ça, c'est un résultat qu'on n'avait pas des années vikings. Il y a vraiment beaucoup d'eau. Alors, avec les photos très haute résolution des sondes actuelles, dans la calotte polaire, on le sait depuis viking, il y a des espèces de vallées bizarres, vous voyez, des espèces qu'on a l'impression de faire des tournées. Ces vallées, on appelle ça des chiasmas. Et voici un gros plan sur un chiasma, quelque part, voilà. Et dans les chiasmas, vous voyez des petites choses là. Là, ce qui est signé sous par la flèche, j'ai mis une drôle structure. Alors, et bien maintenant, comme drôle structure, on va chercher une photo précise, ce qu'on ne peut pas faire à l'aide de viking. Et ces drôles de structures, voilà deux drôles structures qui font même pas un kilomètre de diamètre. Et ces drôles de structures, ça ressemble à des petits ponts, à des pingos. Je ne sais pas si vous connaissez pingo, pas comment on prend ça. Ce sont des structures qui ressemblent à des volcans, mais qui ne sont absolument pas des volcans. Je dirais la meilleure analogie, c'est les bosses qu'on voit sur certaines routes quand ça gèle et ça dégèle. Vous avez déjà vu des routes l'hiver en montagne, il y a des grosses bosses dessus. Les pingos sont des équivalents gigantesques de ces bosses dues à des gels et des dégels. C'est des structures caractéristiques des sols gelés. Et voici deux pingos. Celui-là doit faire plus de 200 mètres de diamètre en Alaska. Ça s'est vu du sol, ça s'est vu l'hiver, ça s'est vu aérienne l'été. Et peut-être que ceux-ci sont des pingos, mais on n'a pas assez de précision pour savoir si c'est des pingos ou des volcans. Mais ça pourrait être des pingos. Alors la calotte d'été sud, elle, on sait depuis longtemps que l'essentiel de sa surface, c'est de la glace carbonique. Elle est plus froide, moins 80 et quelques degrés. Et on ne connaissait pas de glace d'eau avant les missions récentes. Les missions récentes ont découvert qu'il y avait de la glace d'eau sur les bords. En fait, la glace d'eau, elle n'est pas sur les bords, elle est sous la glace carbonique. Et l'été, la glace carbonique se sublime. Et sur les bords, elle se sublime complètement, ce qui laisse apparaître la glace d'eau. L'essentiel du volume, c'est de la glace d'eau. Et il y a quelques dizaines de mètres, tout au plus, de glace carbonique par-dessus. Là, vous avez ici la calotte, donc on ne voit la glace d'eau que sur les bords. Là, vous avez un profil, toujours du radar européen Mars Express. Et quand vous arrivez sur la grosse bosse, vous voyez la limite du sol et la grosse couche de glace d'eau. La glace carbonique n'est qu'une petite pelliculette de rien du tout à la surface de cette glace. Alors, ça ne concerne pas l'eau, mais quand même, je vous le montre parce que c'est joli. Chaque été, la glace carbonique a tendance à se sublimer et à découvrir dessous de la glace d'eau. Et chaque hiver, tout ça se recouvre de givre carbonique. Et puis l'été d'après, ça se resublime. Eh bien, chaque été, ça se resublime un peu plus que l'été précédent. Actuellement, Mars est en période de réchauffement. Quand je dis actuellement, depuis 6 ans, 7 ans. Là, vous avez une photo, l'échelle. Où est-ce qu'il y a l'échelle ici? Vous avez l'échelle 300 mètres. Hein. Donc vous avez, c'est pas très grand ça, c'est quelques fous. Une petite commune française, même pas. Et vous voyez, toutes ces espèces de trous sont des figures de sublimation. Le gaz carbonique se sublime, laissant apparaître l'eau qui est dessous. Si on agrandit ces deux carrés, celui-là a été pris en août 1999, celui-là en avril 2005. C'est deux étés, enfin, c'est le troisième été. Si ça, c'est le premier, il y a le deuxième, c'est le troisième été plus loin. Vous voyez que, par exemple, cette espèce de montagne, qui avait échappé à la sublimation en 1999, a presque totalement été sublimé en 2005. Et je pense que le prochain été, qui doit être maintenant, il a peut-être disparu. Donc là, vous voyez un réchauffement du pôle sud de Mars, en ordre de marche. L'homme n'y est pour rien. Peut-être que certains vont le nier, hein, des anciens ministres vont dire « c'est pas vrai, mais ça se voit ». Alors, les photos des sondes ont montré des images avec une précision extraordinaire qui ont permis de dater, bien mieux que ce qu'on faisait avant. Vous avez ici Valles Marineris, j'espère que tout le monde connaît cette grande structure martienne. On disait, voilà l'échelle, ça c'est 500 km, c'est donc très grand. On disait à l'époque viking, ça a été creusé par des débâcles. Hespérienne, c'est un âge, 3,6 milliards d'années. La pluie éventuelle, l'eau en équilibre, c'était avant. À cette époque-là, disait-on, il n'y a plus que des grandes débâcles parce qu'il y a un glacier qui fond à cause d'un volcan et tout ça. On va regarder en détail ce petit carré-là. Ce petit carré-là, c'est ça. Et maintenant, on va regarder en détail ce petit, tout petit carré qui est là. Et voilà ce qu'on voit. Et vous voyez là-dedans tout un petit réseau de chevelus fluviatiles qui montre qu'il a plu. Ce n'est pas des débâcles, c'est de la vraie pluie avec des vraies rivières, des sources, un géographe pour étudier le réseau. Ça veut dire que si ce truc-là a été creusé par des débâcles il y a 3,6 milliards d'années, eh bien, il a continué à pleuvoir après, parce que de la pluie a raviné, érodé cette chose-là, ce qu'on ne savait pas à l'époque de Viking. Donc là, on rajeunit la pluie qui serait tombée jusque vers 3,3 milliards d'années. Ça fait 300-400 millions d'années de plus de durée de vie de l'eau liquide pérenne. Alors non seulement de l'eau a coulé, jusqu'à plus récemment qu'on le pensait il y a 30 ans, mais elle a déposé des strates sédimentaires dans les creux. Vous avez ici un grand creux qui fait une petite centaine de kilomètres. Si on regarde en luxe de détail n'importe quel coin du grand creux, on voit que les roches se font former d'un empilement de couches. Alors l'échelle, ça vous donne, c'est 100 mètres, hein. Ça c'est plus petit que la commune de Mandelieu. Vous voyez des couches superposées les unes sur les autres. L'eau qui a coulé a déposé des sédiments, comme sur Terre. Est-ce que cette eau n'a coulé qu'à l'état liquide? Vous savez que l'eau, ça peut couler à l'état liquide, mais ça peut couler à l'état de glacier. La mer de glace avance de 150 mètres par an, à peu près. Est-ce que l'eau n'a coulé qu'à l'état liquide? Alors, je ne vous présente pas, parce que je pense que tout le monde le connaît dans cette salle, Olympus Mons, le plus grand volcan martien, 600 km de diamètre à la base, 26 km de haut. Le bord de ce volcan est affecté d'une espèce de grande falaise qui fait 3-4 km de haut, dont on ne connaît pas très bien l'origine. Et on va zoomer sur cette falaise quelque part par là. Alors voilà, si on zoome, on voit ça. Et on va zoomer encore plus. Et voici un zoom de cette grande falaise. Vous avez la falaise. Et voyez en bas des écoulements caractéristiques, quand on compare avec des écoulements terrestres, à des glaciers. Ça, c'est un glacier en Antarctique, de la glace qui coule, elle est recouverte de cailloux, mais on voit encore la glace dedans. Mais si vous faites disparaître la glace, par exemple en la sublimant, eh bien, il restera les lits de cailloux qui ont cette forme que vous voyez. Eh bien, ici, vous avez les lits de cailloux qui ont cette forme. Preuve qu'il y a un certain temps, je ne l'ai pas mis avant, non, il y a un certain temps, de l'eau a coulé sous forme de glace, donc de la glace a coulé sur Mars. Alors, il y a d'autres exemples. Là, vous avez deux jolis petits cratères, dont un est au flanc d'une montagne. Et il y a certainement de la glace qui a coulé sur cette montagne, par là, là, le relief est exagéré. Vous voyez la glace qui a coulé. Là, il y a, entre les deux cratères, elle s'est resserrée. Et là, elle peut s'étaler. Alors, on va regarder ce qui se passe là où ça se resserre. Regardez les lignes de courant de la glace qui se resserrent dans l'étranglement, ici. Preuve qu'il y a vraiment de la glace qui a coulé. Vous voyez, c'est pas grand, le truc resserré, il fait 2 km, même pas 2 km de large. C'est plus étroit que l'Amazone à Manaus, hein. C'est vraiment pas grand. C'est à peu près la taille de la mer de glace, de kilomètres. Alors, une autre région, de Roy-Vallès, où ça a coulé aussi, le glacier, il y en a un qui vient de là, un autre qui vient comme ça, et qui s'en vont quelque part en bas. Alors là, une analogie terrestre, c'est des glaciers du Groenland. Ça, c'est d'anciens glaciers martiens. Ça, c'est des glaciers du Groenland. Alors, quel est l'âge de tous ces glaciers? Eh bien, en comptant les cratères, on peut s'apercevoir qu'ils sont très jeunes. Disons, l'ordre de grandeur, ça va être 10 millions d'années. Ça pourrait être 5, ça pourrait être 15. Mais ce n'est pas 150 millions et encore moins 3 milliards. Alors, comment peut-on mettre des glaciers? Tout ce que je vous ai montré comme photo, c'est dans les zones équatoriales. Maintenant, les glaciers sont au pôle. Comment peut-on mettre des glaciers dans la zone équatoriale de Mars? Eh bien, parce que Mars n'a pas de lune. Ça, c'est une grande nouvelle, il y en a deux toutes petites qui ne comptent pas. Comme il n'y a pas de lune, l'axe de rotation de Mars peut avoir son orientation qui change énormément par rapport à l'écliptique. La Terre, c'est 23 degrés, plus ou moins 1 degré. Ça va de 22 à 24, 25. La Lune stabilise l'orientation de Mars. Mars qui n'a pas de lune, ou qu'on a que des petites qui ne comptent pas, l'axe peut faire n'importe quoi. Et des gens ont pu calculer, disons sur les 15 derniers millions d'années, après c'est très difficile, l'évolution de Mars. Aujourd'hui c'est comme ça, c'est incliné de 24 degrés. Il y a quelques temps c'était comme ça, et il y a 5,5 millions d'années, il y avait déjà des hommes, hein, Toumaï, l'homme du Tchad, était déjà là. Mars s'était incliné très très fort, il était presque à l'horizontale. Et quand on fait les modèles climatiques à la louche du climat qui se passe sur Mars dans ce cas-là, on s'aperçoit que ce n'est pas au pôle qui fait le plus froid. Vous imaginez bien qu'au pôle, pendant l'été, qui dure un an sur Mars, il y a le Soleil qui tape sans arrêt, avec zéro nuit et avec des rayons de soleil presque verticales. Il fait très très chaud au pôle au Soleil. Alors bien sûr, le pôle il fait froid. Mais si vous faites la moyenne sur plusieurs années, la moyenne des pôles est plus chaude que la moyenne de l'équateur, où le Soleil arrive toujours avec un éclairage rasant. Et la glace qui est maintenant au pôle, si on incline Mars d'un coup de baguette magique comme ça, eh bien la glace va se sublimer des deux pôles pour aller se mettre sur l'équateur, et en particulier sur les montagnes équatoriales. Et on peut faire des simulations comme ça. Ça, c'était la position de Mars il y a 5,5 milliards d'années. Les glaciers qu'on fabrique sont là où on les voit. Puis Mars s'est redressé. Il y a 2 à 3 milliards d'années, Mars s'est redressé. Il est devenu presque perpendiculaire à l'écliptique. Et là, quand on fait des simulations climatiques à la louche, on voit que la glace quitte l'équateur, va au pôle, mais elle fait des calottes plus grandes et plus minces. Le volume est toujours pareil. Ça, c'est il y a 2 à 3 millions d'années. Et maintenant, Mars est aujourd'hui avec ses calottes que vous connaissez. Donc il y a 2 à 3 millions d'années, quelque part par là, il y avait sans doute beaucoup plus en surface de glace que maintenant. Et si je vais voir là où j'ai mis l'étoile rouge, eh bien je vois un cratère où justement le fond du cratère est plein de glace. Là, c'est du givre qui va disparaître avec la belle saison, mais ça, c'est de la glace pérenne qui peut-être est un résidu de cette calotte qui couvrait tout Mars, enfin tout l'hémisphère nord de Mars, il y a 2 à 3 millions d'années, quelque part par là. Maintenant, il n'y a plus de glace, sauf au fond de ce petit cratère-là. Alors, ce cratère montre deux choses. D'abord, cette calotte fossile, et puis ce givre qui se trouve sur les versants à l'ombre, un peu ici et surtout là. Alors, ce givre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les méthodes modernes post-Viking permettent d'analyser spectralement cette composition. Ça, c'est un résultat américain. Voici donc une falaise qui est toujours à l'ombre en ce moment, l'hiver. Il y a du givre. Et voici la composition chimique du givre, traduit en fausse couleur. Ce qui est rouge, c'est du caillou. Ce qui est bleu, violacé, c'est de la glace d'eau. Et ce qui est verdâtre, c'est de la glace carbonique. Les endroits les plus froids, il y a un peu de glace carbonique, mais le gros du givre, c'est de la glace carbonique. Donc ces résultats sont donnés par des spectres infrarouges au spectro-imageur. On va voir d'autres résultats du spectro-imageur tout à l'heure. Alors une dernière nouvelle que j'ai rajoutée il n'y a pas longtemps, puisqu'elle date du 1er novembre, ça c'est pour vous donner la nouvelle, c'était évidemment une NASA News, c'est un résultat européen, mais les Européens sont de tels champions de la communication que la nouvelle était, je ne l'avais même pas vue, il a fallu que je la trouve sur les sites de la NASA. Alors, ça, bravo l'Europe, hein, on est très fort. Alors heureusement les Américains sont assez honnêtes, hein, ils mettent Mars Express Probe, mais enfin j'en connais qui seraient peut-être moins honnêtes que ça. Donc voici une carte en relief d'un coin vers l'équateur, qu'on appelle Médusa Fossée. Voici une vue en relief cartographique, et voici le profil radar, toujours notre radar, qui cherche de la glace. Et c'est pour la première fois qu'il voit quelque chose qui ressemble à la limite glace-sol. Ça, c'est la calotte polaire nord, vous voyez l'allure que ça a. Il a trouvé ici, presque sous l'équateur, quelque chose qui ressemble beaucoup. Ça, c'est sous l'équateur, c'est pas blanc, mais ça ressemble beaucoup à ça, qui est blanc. Alors, commentaire de la NASA, j'ai grossi, une grande variété de scénarios ont été proposés pour expliquer l'origine et la composition de ces dépôts. Il y en a deux que je ne souligne pas. Et troisièmement, cela pourrait être des niveaux très riches en glace, ressemblant plus ou moins aux dépôts des pôles, mais formés, je peux rajouter, il y a 5 millions d'années, quand l'axe de rotation de la planète Mars était très incliné, qui rendait les régions équatoriales beaucoup plus froides. Donc c'est une des trois hypothèses qui expliquerait ce dépôt très particulier. Et ça, c'est les dernières nouvelles. On est le 11 novembre, c'est les nouvelles du 1er novembre. C'est pas si mal quand même. Alors, on a vu qu'avec le spectro-imageur, on pouvait connaître la composition chimique du givre. Voir si c'était du givre d'eau ou du givre de glace carbonique. La composition de la calotte polaire sud de la même façon. Eh bien, le spectro-imageur qui fait des spectres permet d'identifier beaucoup d'autres substances que glace ou pas glace. Alors, vous êtes des astronomes, vous connaissez le principe de la spectroscopie, vous avez des longueurs d'onde. Alors là, on est dans l'infrarouge, là vous avez de 1,6 à 2,6 microns, et les substances, suivant leur nature, absorbent plus ou moins le rayonnement solaire. Mars est éclairé par le Soleil envoie des infrarouges, spectre continu. Eh bien, les substances martiennes absorbent plus ou moins ce spectre, et la lumière infrarouge réémise par Mars présente des bandes d'absorption qui sont caractéristiques de tel ou tel minéral ou mélange de minéral. Voici par exemple un spectre de la région des Edge Terrain, qui est là où s'est posé notre ami Opportunity. Voici son spectre. On se demande qu'est-ce que ça pourrait être, ça. Alors on va chercher dans les banques spectrales les minéraux terrestres qui ont des spectres comme ça. Alors par exemple, le spectre A, c'est de la barytine. Ben non, manifestement, ce qu'on voit là n'a pas le spectre de la barytine. Alors je vous ai mis ici, enfin c'est pas moi qui ai fait la figure, 6 spectres. Et celui qui ressemble le plus, c'est celui que j'ai souligné avec des points rouges, qui est le spectre de la kieserite, qui est un sulfate de magnésium monohydraté. Si on ne se trompe pas, ça veut dire que dans les Edge of Terrain, il y a beaucoup, une proportion non négligeable, on va dire, de kieserite, sulfate de calcium monohydraté. Et où se fabrique sur Terre la kieserite? Ça se fabrique dans des environnements de ce genre-là. C'est-à-dire des lacs salés, des marécages côtiers salés, la kieserite, le gypse, les sulfates, ça se dépose dans ce genre de truc. Ça veut dire que peut-être sur Mars, il y a eu des paysages comme ça avant, au flamant rose près, bien entendu. Alors, on a vu tout à l'heure qu'il se déposait des strates sur Mars. Mais des strates de quoi? Eh bien, grâce au spectro-imageur, on va pouvoir le savoir. Il suffit de bien regarder. Alors, vous avez Valles Marineris, on grandit ça. Et les taches de couleur, quand c'est rouge, il y a les raies spectrales de la kieserite, indiscutable. Quand c'est vert, il y a des sulfates hydratés, pas parfaitement identifiés, mais des sulfates, c'est sûr. Et on peut même faire... Donc, je vous l'ai dit, sulfate, kieserite, voilà le contexte de dépôt. On peut même faire mieux. Voici une image Mars Express, une colline. Le haut est bien stratifié, le bas n'est pas bien stratifié. Ça, c'est une vue Mars Global Surveyor verticale. Et ça, c'est une vue Mars Express, vue avec le spectro-imageur. Le bleu, c'est du gypse, sulfate de calcium. Le rouge, c'est de la kieserite, sulfate de magnésium. Vous voyez d'ailleurs que les strates n'ont pas la même allure, là où c'est bleu et là où c'est rouge. Ça veut dire que la composition de l'ancien lac aurait changé au cours du temps. On aurait d'abord en bas déposé du sulfate de magnésium. La composition chimique du lac change et en haut, on dépose du sulfate de calcium. Donc vous voyez tout ce qu'on arrive à faire sur Mars. Alors une chose très étonnante, c'est qu'il y a des gros dépôts de sulfate près de la calotte polaire nord. Là, les zones rouges ont jusqu'à 25% de sulfate, vraisemblablement du gypse en l'occurrence, sulfate de calcium. Ça veut dire que l'environnement polaire, il n'y a pas très longtemps, ressemblait à ça. Il faudra l'expliquer, mais n'oubliez pas qu'il y a 5 millions d'années, les pôles étaient les endroits les plus chauds de la planète, pas les moins froids. Alors, autre chose qu'on peut faire avec le spectro-imageur, c'est qu'on peut identifier des argiles. Là, c'est un paysage dans la région de Mars, Wallis. Toutes les taches bleues, c'est des argiles. Or, une argile, c'est ce que devient, j'allais dire, n'importe quelle roche, si elle reste longtemps, longtemps, en contact d'eau. Et vous voyez que des argiles, il y en a sur les hauts plateaux, il n'y en a pas dans les plaines basses. Et à part ces taches-là, il n'y en a pas dans la vallée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ces hauts plateaux, ils sont vieux. Il y a plein de cratères sur les hauts plateaux. Ces hauts plateaux qui ont 3,5 milliards, 4 milliards d'années, il a dû pleuvoir longtemps, ils sont altérés, il y a de l'argile. Par contre, quand il y a eu des débâcles, fonte des glaciers par une éruption volcanique, par exemple, et qu'il y a eu ces grandes vallées qui se sont faites, l'eau n'est pas restée liquide assez longtemps pour altérer les roches, et dans ces grandes vallées de débâcles, il n'y a pas d'argile. Donc, il y a longtemps, longue durée d'eau, argile, les vallées les plus récentes, pas duré assez longtemps, eau en déséquilibre, pas d'argile. Affaire à suivre, parce qu'il est évident que si on veut aller chercher des petites bébêtes, c'est là où il y a de l'argile qu'on ira les chercher, et non pas là. Alors, dans certains terrains, à certains endroits, on trouve ce que j'appelle des pseudo-dikes, c'est-à-dire des murs résistants à l'érosion. Vous avez ici un grand mur, là vous avez un champ de petits murs que j'ai grossi. Comment est-ce qu'on fait ces structures-là? Ben c'est facile, vous avez un sol avec des fractures. Dans les fractures, il y a de l'eau qui circule. L'eau circulant va minéraliser de part et d'autre de la fracture. Et la roche va devenir plus dure. Il y a de l'érosion, les roches plus dures vont être mises en saillie par l'érosion. Là, on prouve que de l'eau a circulé, il y a un certain temps, dans le sol. Rappelez-vous ces structures, on va les revoir tout à l'heure. Continuons nos inventions orbitales, on va dans la région de Cerbère, les fossés de Cerbère. Voici les fossés de Cerbère, et on ira ensuite regarder des choses dans Athabasca Valley, la vallée d'Athabasca. Les fossés de Cerbère sont des gigantesques failles dans lesquelles il y a eu, il n'y a pas longtemps, quelques millions d'années, des éruptions volcaniques catastrophiques. Et ces éruptions volcaniques catastrophiques ont fait fondre la glace du sol. Et vous avez des débâcles énormes d'eau liquide qui ont coulé. Alors voilà un détail ici, vous voyez l'énormité du flux. Et la rivière est allée s'étaler et se perdre dans cette grande plaine, un peu comme les fleuves africains vont se perdre dans le lac Tchad ou dans l'Okavango. Ça s'est passé il y a à peu près quelques millions d'années. Et si on regarde en détail cette région-là, eh bien voilà ce qu'on voit. L'embouchure, c'est une paléobanquise qui a dérivé sur un paléolac gelé. Parce que ce paysage-là, vous ne pouvez pas ne pas, par la pensée, le comparer à celui-là. La Terre, Mars, la Terre. De l'eau a coulé il y a quelques millions d'années. Mais c'est de l'eau en déséquilibre, due à une fonte de glacier. Alors, si mon titre c'est 10 ans, c'est parce qu'en 1997, la sonde Mars Global Surveyor a découvert ces petites choses, qu'on a appelées des gullies. Les Américains appellent des gullies, qui signifie simplement ravine, rigole. Alors, c'est pas grand, hein, vous voyez, là, vous avez 100 mètres, c'est-à-dire à peu près la taille du palais des congrès. Donc, ce machin-là, c'est à peine, c'est vraiment pas grand. Et vous avez ces petites ravines un peu partout, qui dévalent des pentes, c'est toujours sur des pentes, et c'est sur les pentes exposées au soleil. C'est-à-dire, c'est les pentes nord dans l'hémisphère sud et les pentes sud dans l'hémisphère nord. Qu'est-ce que c'est qui fait ça? Alors, j'en montre d'autres exemples. Et c'est très récent. Il n'y a pas de cratère qui recoupe tout ça. Et il y a même ici un champ de dunes. Et le champ de dunes est recouvert par ce cône de débris issu de ce petit gullies. Donc, on disait quelques dizaines de milliers à millions d'années. On disait, c'est vraiment pas vieux. Mais on n'avait pas beaucoup d'âge pour dire vraiment pas vieux, ça veut dire quoi? Je vous rappelle qu'aujourd'hui, de l'eau liquide à l'équilibre ne peut pas couler sur Mars. Si je renverse ma bouteille, l'eau boue et gèle à la fois. Et si j'en renverse beaucoup, elle ne fera quand même pas des dizaines et des centaines de kilomètres, parce qu'elle gèle très vite et boue très vite. Alors comment est-ce qu'on expliquait ces petites choses? On les expliquait de la façon suivante. L'eau ne peut pas être liquide à cause de la pression qui est faible. Mais si je rends la pression forte, qui est le cas, par exemple, sous une dizaine de mètres de roche, 10 mètres de roche, ça appuie suffisamment fort, là, l'eau pourrait être liquide si je chauffais assez. Donc, en profondeur, l'eau peut être liquide si je chauffe. Et alors, ça chauffe, il faut chauffer à 0 degré si c'est de l'eau pure. Si l'eau est salée, on peut chauffer moins de 0 degré. Imaginez que vous ayez un versant bien exposé au soleil et que le soleil tape bien fort. Il est tout à fait possible que sous quelques mètres de roche, vous atteignez la température fatidique du dégel. La pression sous les roches vous permet d'être dégelé. Et si l'eau liquide là-dedans crève, la croûte sèche, eh bien ça va pouvoir couler. Mais dès que ça sort, c'est de nouveau la pression du quasi-vide de Mars et à moins 50 degrés. Parce que là, ça a bien chauffé parce que le soleil tapait sur un sol noir, par exemple. Donc l'eau va couler très peu de temps et va geler et bouillir en même temps et ça fera des rivières qui feront quelques centaines de mètres de long tout au plus et non pas des kilomètres et des kilomètres. Ça c'est ce que je vous aurais dit il y a 2 ans par exemple. Alors depuis septembre 2005 j'ai rajouté quelque chose que je vais rajouter. Voici un cratère avec des pentes sud, enfin exposées au soleil et ici vous avez une petite gullies de rien du tout. Alors qu'est-ce qu'il a de spécial ce petit gullies de rien du tout? D'abord, comme quelques pourcents des gullies, ce n'est pas une ravine, ce n'est pas une rigole, mais c'est un dépôt clair. Il y a 2% des gullies qui forment des dépôts clairs comme ça, c'est le cas de celui-là. Donc là, vous avez un gros plan de ce petit gullies, photographié en septembre 2005. Il avait de spécial ce gullies, c'est qu'il n'existait pas en août 1999. Le même endroit en août 1999, il n'y est pas. Alors un autre endroit, deuxième cratère, vous avez ici 2 gullies blancs, mais celui-là est dans une rigole. Vous regardez le gullies dans sa petite rigole telle qu'il apparaissait en 2005. Et là, il y a la rigole, elle y est, mais il n'y a pas le dépôt blanc. Donc, il semblerait que de l'eau liquide ait coulé sur Mars au 21e siècle, entre 2001 et 2005. Alors, ça, c'est ce que je vous aurais dit il y a 3 mois. De l'eau liquide a coulé. Depuis les nouvelles du 24 septembre, les Américains ont fait un spectre. Voilà, quand on passe par-dessus des minéraux hydratés, vous avez une bande d'absorption vers 3 microns d'épaisseur. Si vous avez de la glace, vous avez une bande d'absorption ailleurs. Et là, vous avez un espèce de fouillis, un méli-mélo, qu'on passe par-dessus du gulide. Mais il n'y a pas la bande d'absorption caractéristique, ni de la glace, ni des minéraux hydratés habituels de Mars. Donc j'ai marqué réponse plus tard, peut-être dans 2 ans si vous revenez. Et si je reviens, je vous dirai peut-être qu'est-ce que c'est que ces petits machins. Mais il y a quand même quelque chose qui a coulé, qui s'est passé. Alors j'ai fait 3 quarts d'heure sur les orbites, il me reste une petite demi-heure sur les robots. Donc après 53 diapositives prises par les sondes en orbite, qui dégagent des problèmes et qui en posent d'autres, c'est toujours comme ça en science. Vous savez qu'il y a 2 robots qui marchent très bien sur Mars, ils étaient prévus pour 3 mois ou 600 mètres. Ça fait 4 ans et 10 km qu'ils marchent. Donc, alors ils sont un peu usés, mais enfin ils marchent encore très bien. Et je vais vous raconter les résultats de ces robots, au moins ceux qui concernent l'eau. Je ne vais pas vous raconter les autres, et c'est bien dommage. Il eût fallu qu'Eric me donne 2 heures au lieu d'une heure. Alors, il y a 2 robots qui se sont posés. Le premier, Spirit, s'est posé dans un grand cratère qui fait 100 km de diamètre. Pourquoi est-ce qu'il s'est posé là? Enfin, pourquoi les Américains l'ont envoyé là? C'est parce que dans ce cratère, il y a une grande vallée qui arrive. Et les gens se sont dit, s'il y a une grande vallée qui arrive, sans doute, pendant un certain temps, ce cratère a été un lac. Donc, voici la reconstitution. On va voir peut-être des sédiments et des choses comme ça. Posons-nous dans le lac, enfin dans l'ancien lac. Quand on vise sur Mars, on vise à peu près à 50 km près en long et à 20 km près en large. Donc on vise un endroit qui est plat. Parce qu'évidemment, si vous aviez visé là, que vous étiez tombé sur la pente, ça aurait été grave. Donc en visant là, sauf si par hasard vous tombez dans le petit trou là, il n'y a pas trop de problème. Alors, Spirit s'est posé en janvier 2004, ça va faire 4 ans, dans un champ de cailloux qui ressemblait beaucoup aux photos vikings, aux images vikings. Et ces cailloux qui ont été analysés sur place, c'est rien que du basalte, des roches volcaniques. Il y en a même en Auvergne. Cruelle déception, j'ai écrit. Mais alors, à 3 km de là où il s'est posé, il y avait des collines. Alors, les Américains se sont dit, ben, on va essayer d'aller voir les collines. En géologie, les montagnes, c'est toujours plus riche que les plaines. La morne Beauce, c'est vraiment aucun intérêt en géologie. Par contre, dès que vous avez des collines, il y a toujours des choses. Donc, les Américains ont décidé d'aller voir ces collines. C'était à 3 km, il était garanti 600 mètres. Il y est allé, il y est même arrivé. Et non seulement il est arrivé sur les collines, mais il est monté. Voilà, j'ai mis la cathédrale de Chartres à la même échelle là, il y a 100 mètres à peu près. Il est redescendu de l'autre côté, actuellement il est de l'autre côté. Donc, et il fonctionne toujours. Alors, ça n'a rien à voir avec l'eau, mais je vous montre le paysage quand il monte sur les collines. On est presque au milieu du grand cratère, et comme l'air est très pur, quand on monte, eh bien on voit à l'horizon le rempart du cratère. C'est comme quand on est sur les falaises de Douvres, qu'on voit l'Angleterre. Alors, il monte, évidemment, il analyse. J'ai mis, il retrouve toujours du basalte. Quelle déception, bis. Alors bien sûr, les Américains se consolaient en disant que ce basalte est altéré par de l'eau. Ils avaient vu qu'il y avait par exemple de la goethite, et la goethite est un hydroxyde de fer. Donc il y avait de l'eau, le basalte avait touché de l'eau, mais enfin, vraiment, celui qui avait choisi le site était tout petit dans son coin, il n'était pas très fier. Alors, de temps en temps, il trouve des roches stratifiées, vous avez des couches. Alors, des roches stratifiées, ça peut être des sédiments, bien sûr, ça peut être des cendres volcaniques. Quand on analyse, ça a la chimie de cendres volcaniques. Ben, il y a des volcans, il y a des cendres sur Mars. Bon, la belle affaire. Alors, avec ses analyseurs, il peut faire des trous, polir, brosser. Regardez ça au microscope, là vous avez 5 cm. On peut même voir très près. Vous voyez, ce machin-là fait 3 cm sur 3, hein. C'est extraordinaire de voir ce détail. Et là, vous voyez dans ces cailloux, dans ces morceaux de 3-4 cm sur 3-4 cm, des espèces de formes géométriques que j'ai soulignées par des flèches rouges. Et ça, le géologue terrestre voit que c'est des sections faites dans des cristaux qui ressemblent un petit peu à des cristaux de pyroxène, pour ne pas les nommer. Et ce genre de dépôt stratifié avec des formes géométriques comme ça, sur Terre, ça se fait le plus souvent quand il y a des éruptions phréatomagmatiques. Une éruption phréatomagmatique, c'est quand vous avez une éruption volcanique sous de l'eau pas profonde. Voici par exemple une éruption phréatomagmatique qui a eu lieu en 73 en Islande. Donc, j'aurais envie de dire, ça c'est des cendres volcaniques, hein, c'est stratifié, mais ce volcanisme s'est fait avec beaucoup d'eau dans le sol ou dans de l'eau peu profonde. Je continue à monter, j'arrive presque au sommet de la montagne, et je vois des vagues couches grossières. Alors j'agrandis le carré bleu. Voilà mes vagues couches grossières, c'est mon carré bleu. Le carré bleu, il est là. Je grossis le carré vert, ici. et je vois une roche faite d'un agglomérat de blocs plus ou moins anguleux. Par exemple, il y a un bloc là, il y a un bloc là. Et si je grossis le maximum, alors là, ça doit faire à peu près 20 cm. Je vois cet agglomérat de blocs. Ici, les blocs ne sont pas anguleux, ils sont ronds. Alors ça, c'est l'extase, j'allais dire l'orgasme géologique. Parce qu'un bloc arrondi, c'est qu'il a été roulé par de l'eau. C'est un galet rond. Et ce truc-là, c'est la première fois sur le site de Spirit qu'on a la quasi-certitude qu'il y a de l'eau liquide et que ces roches-là se sont mises en place. Alors, ce n'est pas de la bonne eau. Hein. Pour faire des structures de ce genre-là, il faut les couler du bout. Et voilà à peu près, voilà nos cailloux martiens. Voilà l'équivalent terrestre, hein, c'est des coulées de boue qui dévalent d'un flanc de volcan. Mais enfin, des coulées de boue, on peut se noyer dans une coulée de boue. C'est un bon début quand on cherche de l'eau. Au sommet de la montagne, il regarde de l'autre côté. Et de l'autre côté, voilà l'autre côté, il voit ça. Et ça, il se dit, tiens, c'est curieux. Il appelle ça l'assiette de la maison. Et il décide d'aller voir. Alors, ils redescendent. Alors, en passant, ils voient des champs de dunes, des tas de choses intéressantes. Et ils arrivent au pied de cette assiette de la maison, hein, que je remonte là, là. Et ils voient que cette assiette de la maison, cette home plate, est vraiment faite de roches très bien stratifiées. C'est les plus belles strates qu'on ait jamais vues sur le site de Spirit. Ils s'approchent encore. Et aux joies suprêmes, on voit alors qu'il y a deux types de couches. Il y a les couches du bas, qui sont assez grossières, et les couches du haut, qui sont fines. On grossit ces couches-là. Et on voit, bon, les couches fines, on regarde les couches grossières, on voit ça. Alors, dans la salle, il y en a quelques-uns qui étaient avec moi à Hawaï au mois de juillet. Vous vous rappelez l'excitation que j'avais quand j'ai vu ça, hein, au bord de la route? Parce que j'avais ça dans la tête. Alors, je savais que ça existait sur Terre, mais là, je le voyais en vrai devant des gens. Et j'ai pu expliquer comment on faisait ça. Alors, pour faire ça, eh bien, il faut des explosions volcaniques violentes qui projettent en l'air des gros cailloux. Et ces gros cailloux, en retombant, eh bien, déforme les couches dans lesquelles ils retombent. Mars, Terre. Alors, ce n'est pas Hawaï, mais parce que j'avais déjà vu ça avant d'aller à Hawaï, je n'ai pas changé mon diaporama, j'aurais pu mettre des photos d'Hawaï. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a eu des éruptions volcaniques assez explosives pour projeter des blocs assez gros qui, quand ils retombent, font quand même des dégâts. Vous ne pas voir là. Si vous étiez martien, vous ne pas être là. Et au moins sur Terre, qui dit volcanique explosif, dit gaz et très probablement vapeur d'eau. Je vais conclure pour Spirit. On était chercher de l'eau dans un lac. La seule chose qu'on a trouvée, c'est des indications d'interaction volcanisme-eau. On n'a pas trouvé les sédiments, mais le volcanisme a quand même sans doute eu lieu en présence d'eau. Puis arrive le long hiver martien. Le soleil est trop bas pour faire fonctionner le panneau solaire. Spirit vente en hibernation, d'où la marmotte. Et il vient, depuis un mois ou deux, de ressortir de l'hibernation. Il marche encore. Et j'avoue que les Américains ne savent pas trop où ils vont aller, parce qu'il faudrait qu'ils pourraient aller voir quelque chose de nouveau, qu'ils fassent des kilomètres, qu'ils ne peuvent plus faire. Donc, ils tournent un peu en rond, là, sans trop, pour l'instant, sans trop savoir quoi faire. Deuxième robot, Opportunity. Alors, il s'est posé là. C'est une plaine plate. Il se pose toujours dans les plaines plates, pour l'instant. Et les plaines plates qu'il a choisies, ce n'est pas un ancien lac, quelque chose comme ça. C'est un des endroits les plus rouillés de Mars. Tout le monde sait que Mars, c'est rouge. Si c'est rouge, c'est parce qu'il y a beaucoup de l'oxyde de fer, de la rouille. Par des analyses spectrales depuis la Terre ou depuis les orbiteurs, on peut savoir où est-ce qu'il y a le plus de rouille. Et c'est dans les taches rouges, ici, qu'il y a le plus de rouille. On s'est dit, beaucoup de rouille, c'est un minéral qui suggère la présence d'eau liquide passée. On va se poser là. Donc on s'y va, on s'y pose. Alors là, il s'est posé dans une plaine, mais d'une déception, c'est affreux, c'est rien que du sable. Et oh, imaginez-vous qu'on soit posé là, on n'aurait vraiment pas été content. Et aux chances, il s'est posé dans un tout petit cratère, à 20 mètres de diamètre, 2 mètres de profondeur, rien du tout, mais il s'est posé là. C'est très bien. Il y est resté 2 mois, au bout de 2 mois, il en est sorti, et en sortant, il a fait demi-tour pour prendre une photo derrière, et voilà donc là où il s'est posé. Mais ce qui est bien, c'est que dans ce petit cratère, on a une petite coupe naturelle des affleurements, alors qu'on aurait été dans la plaine, on n'aurait rien vu. Et tout de suite, en regardant les bords du petit cratère, il y a une falaise, c'est un grand mot, falaise, de 75 cm de haut. Et dans cette falaise, on voit pour la première fois des couches en strates. À l'époque, Spirit, il était dans ses champs de basalte, il n'y avait pas encore vu de strates. C'est la première fois qu'on voyait des strates au sol sur Mars. J'ai mis le jackpot. Alors des strates de quoi? Toujours pareil. Alors, il a mis un certain temps pour y aller. Et qu'elle est arrivée, il a fait des études de géologie. C'est vraiment de la géologie. Par exemple, il a vu que les strates n'étaient pas parfaitement plates, elles étaient des fois un peu sinueuses. Vous voyez, là, c'est sur cette figure, la sinuosité est soulignée. Et ça, n'importe quel géologue terrestre sait que des strates sinueuses comme ça, ça se fait sous un courant d'eau. Alors si la géologie martienne et la géologie terrestre s'ensemblent, c'est que ça s'est fait sous un courant d'eau. Voici des strates sinueuses terrestres qui se sont faites sous un courant d'eau il y a 70 millions d'années dans les Pyrénées. Ça ressemble. Alors des fois, les strates sont parfaitement horizontales, mais dans les strates, vous voyez comme des espèces de petites fentes, vous voyez, qui font sur l'écran 3-4 cm de long. C'est des cavités que les Américains appelaient des vugues, ça veut dire cavités. Voici ces vugues, en gros plan. Et puis, vous avez plein de petites billes bleues, qui sont bleues sur ces images en fausse couleur, mais qui en fait sont grises. Donc vous avez des petites billes et des petits vugues. Alors les vugues, c'est des espèces de... comme si on plantait un coup de couteau, une lame de couteau dans de la boue, ça fait un trou comme ça. Là encore, un géologue, quand il voit ça, ça lui rappelle des souvenirs. Et les souvenirs que ça lui rappelle, voilà un caillou terrestre où il y a ça, c'est de la boue ancienne, maintenant la boue est devenue de la pierre, mais à l'époque c'était de la boue. Dans cette boue a cristallisé des sels diverses, ça pourrait être du sel gemme, des sulfates. Et le cristal en poussant a déplacé la boue. Si c'est du sel gemme, ça fait une marque carrée. Si c'est du gypse, ça fait une marque un petit peu en coup de couteau. Et ensuite, si le gypse ou le sel gemme a disparu, il reste le trou. Alors voici des vugues terrestres et voici des vugues martiennes. Rien que quand j'ai vu ça, sur un site de l'École normale supérieure, j'ai proposé qu'il y avait du gypse ou des sulfates sur Mars en regardant la forme. Par hasard, le lendemain, les Américains ont publié l'analyse disant qu'il y avait des sulfates sur Mars. Mais il n'y avait pas besoin de mettre un appareil qui vaut des millions et des millions. Il suffit de regarder les photos. L'appareil photo vaut lui aussi des millions, d'ailleurs. Pour voir que très probablement, il y avait du gypse. Mais il vaut mieux avoir deux confirmations qu'une seule, quand même. Donc, je le rappelle, on a déjà vu. Gypse, kieserite et tout ça, ça se dépose dans ce contexte-là. Flamant rose, mis à part, comme tout à l'heure. Alors, en avançant dans les cailloux, on voit des petites boules absolument partout. Ça, c'est des couleurs naturelles. Les petites boules sont grises. Si on grossit ce carré ici, on voit les couches. Alors, elles sont horizontales, mais c'est incliné parce que le robot est penché. Et on voit ces petites boules qu'il y a partout. Alors, toujours pareil, ces petites boules, qu'est-ce que c'est? On compare, alors les Américains ont tout de suite appelé ça les myrtilles. On compare avec ce qui, sur Terre, fait des petites boules de cette façon-là. Alors, il y a plein de façons de faire des petites boules sur Terre. La plupart d'entre vous qui vous promenez le dimanche, vous êtes sans doute passé à côté de petites boules, mais sans les voir, parce que vous ne devez pas regarder là où vous mettez les pieds. Mais ça existe sur Terre. Et celles qui, sur Mars, celles qui, sur Terre, ressemblent au plus aux petites boules martiennes, c'est des petites boules comme ça, qui sont très riches en oxyde de fer, ce qui est le cas des petites boules martiennes, et qui, sur Terre, sont dues à des concrétions pédogénétiques, pédosédimentaires. Et sur Terre, ces petites boules, 9 fois sur 10, c'est fait par des bactéries. Sur Mars, évidemment, j'en sais rien. Mais sur Terre, 9 fois sur 10, c'est fait par des bactéries. Alors, notre robot, il étudiait les couches, toujours dans son cratère, il a vu les couches vues par-dessus. Et voici les couches vues par-dessus, ça c'est un morceau du robot. Et cette espèce de pavage hexagonal n'est pas sans vous rappeler ce qui se passe quand de la boue s'assèche. Là, vous avez une strate martienne, d'âge inconnu. Là, vous avez une strate terrestre, c'était de la boue, elle s'est asséchée il y a 300 millions d'années, 250 à 300 millions d'années, elle est devenue pierre, ça s'est recouvert par des choses dessus, c'est incliné, c'est passé dans les montagnes, et l'érosion le dégage, et maintenant on voit ce sol-là, qui est en pente, hein, c'est très raide comme ça, mais on a l'impression de marcher sur de la boue asséchée, alors que c'est du grès, de la pierre depuis très longtemps. Ça, peut-être que c'est la même chose. En analysant tout ça, la chimie ressemble de toutes ces roches-là à des argiles, riche en fer et en soufre. Donc globalement, la roche d'Eagle ressemble à des argiles riches en fer, calcium, magnésium et soufre. J'ai mis où soufre? Argile saline, voilà, c'est sel. Et le fait qu'il y ait des sels qui s'évaporent, c'est suggéré également par les fentes de retrait qui sont peut-être des fentes de dessiccation. Alors notre robot a quitté son petit cratère de 2 mètres de profondeur et il est allé où? Eh bien, à 800 mètres, il y avait un cratère qui faisait 20 mètres de profondeur. Il a dit, ben, je vais voir, au lieu de voir les terrains sur 2 mètres d'épaisseur, je vais le voir sur 20 mètres, c'est mieux. Alors il y est allé, il a mis du temps, Il est allé au bord du cratère, il est même descendu dedans, ressorti, tout va bien. J'en ai besoin d'être là il y a 2 ans, il est rentré dedans, en train de ressortir. Et il a vu dans ce cratère plein de choses. Alors concernant l'eau, qu'est-ce qu'il a vu? Plein de strates, mais alors une beauté extraordinaire. Regardez ici, les strates sont horizontales, dessous elles sont inclinées, on voit très bien l'angle des deux strates, le géologue appelle ça une discordance, et une façon de faire une discordance, c'est dans des dunes, que ce soit des dunes éoliennes ou des dunes hydrauliques, dues à des courants d'eau. Ici, c'est des discordances, parce que si vous regardez les roches du dessus, il y a plein de coquillages dessus, c'est du sable marin qui se dépose comme ça. Donc, peut-être que c'était ça. Tout à l'heure, on a vu des espèces que j'appelle le pseudo-dike, des murs dégagés par l'érosion. Bien, ça existe en grand, vu d'orbite, mais ça existe en petit, vu au ras du sol. Les petites boules, c'est des myrtilles qui font 3 mm. Là, il y a une fracture, de l'eau a circulé, a déposé du matériel un peu plus résistant, et l'érosion met ce matériel en saillie. Donc, à toutes les échelles, l'eau circule. Des fois, l'eau fait des clapots. Quand vous regardez cette structure, vous avez les strates, et vous voyez les strates qui dessinent des espèces d'ondulations. Hop, 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 hop. C'est symétrique. Et des ondulations symétriques comme ça, c'est dû à du, non pas un courant, mais à du clapot dans une flaque d'eau. Vous avez ici des petites vaguelettes, la pente à droite et la pente à gauche est pareille. Quand vous avez une eau clapotante, hein, parce qu'il y a du vent et pas beaucoup d'eau, vous faites de ces structures-là, que vous avez ici en vue normale et là en coupe, et la longueur d'onde, enfin l'espacement entre deux crêtes, est d'un même ordre de grandeur de dimension que la profondeur de la flaque qui clapotait. Donc ici, à peu près une flaque d'eau de 10 cm, et ça fait des vaguelettes de sable de 10 cm. Ici, ça fait à peu près 5 cm. Donc ce machin-là a dû se faire mettre en place une flaque d'eau qui faisait 5 cm d'épaisseur. C'est compatible avec de l'évaporation, des choses comme ça. 5 cm, il en faut plus beaucoup pour que ça s'évapore et que ça s'assèche. Alors, en étudiant tout ça, les Américains peuvent faire une succession sur 7 mètres d'épaisseur de tous les événements, avec des couches éoliennes, des couches ceci, et là, il y avait beaucoup d'eau, et en haut, ça s'est mis en place sous quelques centimètres de profondeur d'eau. Ensuite, notre robot n'a pas fait que de la géologie, il a fait de la météo. Par exemple, la nuit, le robot se recouvre de givre, il est blanc. Le matin, le givre se sublime, le robot reprend ses couleurs normales. Il y a des fois des petits nuages, et vous voyez ici de jolis petits nuages dans le ciel de Mars, avec même le soleil que vous voyez à travers les nuages. Et les nuages, c'est des petits cristaux de glace d'eau. Et puis, après avoir quitté son cratère, son deuxième cratère, Opportunity fait des kilomètres. Il quitte la plaine de sable pour aller dans cet endroit-là où il y a des fentes de craquelures partout, partout. Et il arrive au bord d'un grand cratère qui fait 800 mètres de diamètre, donc il doit faire quasiment 80 mètres de profondeur. Il a tourné autour du bord. Voici un montage où vous avez les vraies photos du bord du cratère et le robot qui est dessus en train de regarder, là. Ça, évidemment, c'est un montage. Il a exploré les bords. Il a hiberné quelques mois, parce que c'était l'hiver. Et il vient de se réveiller. Et il commence à descendre dans le cratère. Dans 2 ans, peut-être, je vous raconterai ce qu'il y a trouvé. Donc, on se posait la question de l'opérenne sur Mars. La réponse, c'est il y en a eu longtemps, le temps de déposer quelques mètres de sédiments. Et peut-être même plus encore, ça c'est parce que je pensais au Dupont. Alors maintenant se pose la question, pourquoi n'y a-t-il plus d'eau liquide en surface? Il y en a eu dans le temps, il n'y en a plus. D'eau liquide à l'équilibre. C'est parce que la gravité faible, le champ magnétique, bombarde la haute atmosphère et tout ça, et Mars perd lentement son atmosphère. Mars fuit, d'où la baignoire que j'ai dessinée. Et comme Mars fuit, la pression, l'effet de serre et la température baissent. Alors au début, jusque vers 3 millions d'années, la pression et la température étaient assez fortes pour que de l'eau liquide pérenne existe sur Mars. Il pleuvait, de l'eau coulait, des flaques d'eau clapotaient. Depuis 3,5, 3 milliards d'années, il n'y a plus d'eau liquide, sauf exceptionnellement et en déséquilibre du volcanisme qui fait fondre de la glace, un versant sud exposé au soleil. Et puis entre les deux, eh bien, il y a une période de transition. Des grosses éruptions volcaniques, ça fournissait beaucoup de CO2, l'effet de serre remontait, la pression remontait, l'eau était liquide. Le volcanisme ralentissait, il refaisait froid. Le volcanisme repartait, il refaisait chaud. Donc une période chaude, une période froide, et entre les deux, une période de transition. Là, je passe, mais voici ce qu'on peut dire sur Terre. pour répondre à la grande question, y a-t-il eu des Martiens? Voici l'histoire de l'eau sur Terre. Ça, c'est aujourd'hui. Ça, c'est 1, 2, 3, 4, 4,5 milliards d'années. La Terre s'est faite, elle était très chaude. Et puis, rapidement, elle a refroidi. Et rapidement, l'eau liquide est apparue sur Terre. On a des indications presque sûres que de l'eau liquide existait à 4,3 milliards d'années. Et l'eau liquide, elle existe toujours sur Terre. Les premières traces de vie connues sur Terre, les plus vieux fossiles, datent de 3,8 milliards d'années. Les plus vieilles traces de vie sur Terre sont apparues là. Et toute cette époque-là, c'était, que j'ai mis en bleu, l'ère des bactéries et autres êtres unicellulaires. Les êtres compliqués, végétaux, animaux, et les bactéries qui existent encore bien sûr, ne sont apparus qu'à peu près vers la transition bleu-vert. Donc la vie sur Terre, qui est apparue avant, je ne sais pas quand, mais avant le très bleu, très violet, ça a surtout été des bactéries et les êtres compliqués comme un platane ou un président de la République. Il faut qu'il soit partout, alors je le mets là, hein. Comme ça, ça y est, je l'ai dit, il y est. Les êtres compliqués comme un Schulz-Bruxelles ou un Sarkozy ne sont apparus qu'il n'y a pas très longtemps. Sur Mars, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, sur Mars, Mars était trop chaud au début. L'eau liquide, plus ou moins permanente, c'est à cette époque-là. Et vers cette époque-là, Mars est devenu trop froid et trop sec en surface. Et il n'y a plus d'eau liquide en surface, d'eau liquide à l'équilibre. Peut-être de l'eau liquide en déséquilibre à cause de coups de chaud, mais il n'y a plus d'eau liquide. Donc, la question est extraordinaire. Y a-t-il eu des Martiens? Si la vie s'est faite sur Mars comme sur la Terre, la réponse c'est oui, il a dû s'en faire quelque part par là. Mais ça fait 3 bons milliards d'années qu'ils ont été mis au congélateur. Donc pour aller les chercher, c'est pas facile. Alors tous les espoirs sont permis malgré tout, parce qu'une bactérie au congélateur, ça s'appelle un fossile, et il n'y a qu'à envoyer un bon géologue sur Mars, il vous le trouvera le fossile. Et avant de se quitter, on va regarder cette belle étoile qui brillait dans les lueurs du crépuscule martien, en ce début de mars 2004, au-dessus Spirit. Et bien, cette belle étoile, c'est notre bonne vieille Terre, photographiée à un coucher de soleil sur Mars. Ça fait 122 diapos. C'est tout pour aujourd'hui, et je vous remercie. Je vous signale qu'a priori, je me suis enregistré et vous devriez avoir cette conférence et plein d'autres choses sur Mars, sur le site dont j'ai mis l'adresse ici. Ce n'est pas difficile à trouver. Vous tapez « planète sans E Terre » sur un moteur de recherche et vous trouvez. Y a-t-il des questions? Bien sûr que c'est des saisons. Il fait froid, il fait chaud. Elles durent deux fois plus longtemps que chez nous parce que l'année est deux fois plus longue, c'est tout. Ah oui.
Vous avez dit que Mars se balançait sur son orbite, ouais, sur son axe, pardon. Est-ce que le fait de ce balancement n'aurait pas empêché la vie?
Non, non. Jour, il fait chaud, il fait froid, ça, c'est une histoire de journaliste. Ça empêche certainement la vie compliquée. Mais vous savez, une bactérie que vous emmenez avec vous et que vous mettez dehors en Antarctique, vous, l'avant, vous... Allez, en Antarctique, vous y allez, vous chiez. Tiens. Vous laissez votre merde pendant 3-4 ans, bien au froid. Vous la sortez, vous la dégelez. Eh bien, je vous garantis que les bactéries sont encore vivantes. Hein. La vie compliquée, c'est sûr qu'elle serait perturbée. Un platane, un président, n'aime pas. Mais une bactérie comme nos bactéries à nous, ça ne les gêne absolument pas. Et surtout que ça change la température en surface, mais dès que vous enfoncez de quelques centaines de mètres, ça devient stable. Donc, ce n'est pas gênant du tout pour la vie. Même sur Terre, s'il y a des gens qui disent « s'il n'y avait pas la Lune, il n'y aurait pas la vie sur Terre ». Il n'y aurait pas la vie compliquée sur Terre, il n'y aurait pas la vie telle que nous la connaissons, mais il y aurait de la vie. La vie a beaucoup plus d'imagination que les biologistes. Ah ben, débloquer les crédits pour faire un forage de 200 mètres. Je vote pour le président qui me fasse ça dans son programme.
Une question. Oui. Est-ce qu'on doit descendre à quelques centaines de mètres ou à quelques kilomètres de profondeur pour essayer de trouver de l'eau liquide, ou est-ce qu'on a des chances d'en trouver dans les couches plus proches de la surface?
Alors, c'est ce que sont en train de se demander les gens des différentes missions, même celle qui est partie. Phoenix et les autres, ou faire poser un atterrisseur pour avoir le plus de chances de trouver quelque chose. Alors, si vous voulez trouver, non pas de la vie, mais quelque chose qui monte, donc des molécules organiques simplement, on va chercher dans les endroits où il y a eu de l'eau, il y a de la glace, il y a des argiles, il pourrait y avoir des molécules fossiles, etc. Il n'y aura pas de vie, ça sera en surface. Si vous voulez chercher des fossiles, vous direz, ils étaient, sans le dernier, ils devaient être en profondeur. Faisons un forage, mais ça c'est trop cher. Mais chaque fois qu'il tombe une météorite qui fait un cratère de 100 mètres, une météorite récente, les cailloux qui étaient à 100 mètres de profondeur, ils sont retombés sur les bords. Il n'y a qu'à aller voir les débris des cratères. Donc il y a plein de techniques à faire. Si vous voulez chercher des fossiles, a priori, ça sera des fossiles d'êtres rudimentaires et simples. Donc, je ne sais pas s'ils auront une forme de bactérie, mais ils sont certainement de petite taille. Donc, il faut pouvoir les voir au microscope. Pour l'instant, on ne sait pas faire des robots qui verraient des bactéries fossiles au microscope. Donc, sans aller ramener de cailloux sur Terre, vaut mieux chercher de la chimie, voir s'il y a des composés qui auraient pu être bactériens, plutôt que chercher la bactérie elle-même. Et c'est pour ça que, dans l'état actuel des choses, on ne cherche pas spécifiquement des fossiles.
Oui, suite à cette mise en évidence des lagunes dont vous avez parlé dans oui. différentes missions, est-ce que ça remet en cause l'existence d'un océan ancien sur Mars ?
Alors, j'en ai pas parlé, parce que les lagunes qu'on a vues étaient relativement d'altitude. Donc, de toute façon, elles étaient au-dessus de l'éventuel océan. Ça serait l'équivalent du lac des salars de l'Atacama et non pas du Pacifique. Il n'y a aucune mission qui s'est posée dans les grandes plaines du Nord pour savoir si. J'en ai pas parlé parce que j'avais 1h15 et c'est tellement discuté que j'aurais rien pu dire de neuf que depuis 10 ans. Donc je ne l'ai pas dit. Il est possible que toutes les grandes plaines du Nord aient été recouvertes de quelques centaines de mètres, voire 1 ou 2 kilomètres d'eau. C'est très débattu. Il n'y a pas d'argument massu qui dit oui, et il n'y a pas d'argument massu qui dit non. Et il n'y a pas de nouveauté, surtout depuis une dizaine d'années.
Bonjour, vous avez dit qu'il y avait une atmosphère très ténue sur Mars.
Oui.
Est-ce qu'il y a un peu d'oxygène et d'azote dans l'atmosphère
Alors, de l'azote, l'atmosphère de Mars, à l'oxygène près, a la même composition chimique que l'atmosphère de la Terre. Alors, quand je vais dire ça, on me dit, mais il est fou. La Terre, c'est azote, oublions l'oxygène. Et Mars, c'est surtout gaz carbonique. La Terre, c'est surtout le gaz carbonique aussi. Mais le gaz carbonique de la Terre, il est devenu calcaire. Et si vous transformez tous les calcaires du monde en gaz carbonique, par exemple en mettant de l'acide dessus, en mettant tous les calcaires du monde dans un four à chaud, vous aurez une atmosphère faite d'à peu près 20 parts de gaz carbonique et une part d'azote. Les 20 parts de gaz carbonique sont parties, enfin sont parties, sont devenues calcaires, il en reste quasiment plus, 0,03%, c'est ridicule. Et il reste que l'azote. Eh bien, sur Mars, gaz carbonique et azote sont dans les mêmes proportions que la Terre. Sauf qu'il y en a beaucoup moins en proportion. Mais le gaz carbonique n'est pas devenu calcaire, il est resté dans l'atmosphère. Donc l'atmosphère, c'est 98% de gaz carbonique et 2% d'azote. L'oxygène, il n'y en a quasiment pas. Il y en a des infimes traces. Quand vous avez un photon ultraviolet qui tape en plein milieu d'une molécule d'eau, ça la dissocie, ça fait H2 et O2. Mais mis à part ça, il n'y a pas d'oxygène. L'oxygène sur la Terre est le produit de la vie. On dit toujours il faut de l'oxygène pour faire la vie. Les gens qui me disent ça sont de très mauvais vivants. La levure de bière, organisme très vivant et très sympathique, n'a absolument pas besoin d'oxygène pour vivre dans sa bouteille. Il y a même des êtres vivants comme le bacille du tétanos qui est tué par l'oxygène. Donc dire oxygène, il faut de l'oxygène pour de la vie, c'est absolument pas vrai. On peut très bien vivre sans oxygène. Par contre, c'est la vie, même je dirais la vie verte, algues vertes, plantes vertes, bactéries vertes, c'est la vie verte qui a fait l'oxygène. L'oxygène n'est pas la cause de la vie, mais la conséquence de la vie. Et sur Mars, il n'y a pas d'oxygène. Il faut dire que si la vie s'est arrêtée il y a 3 milliards d'années, elle aura disparu. Alors la vapeur d'eau, oui, la vapeur d'eau a été analysée par les sondes vikings. Elle n'est pas très différente de la Terre. Elle est un peu plus riche en deutérium que la Terre, c'est normal. Mars a perdu une bonne majorité de son eau, la gravité est plus faible, la vapeur d'eau s'en va. Donc les isotopes lourds sont favorisés par rapport aux isotopes légers, et l'eau martienne est un peu plus lourde que l'eau terrestre.
Pourquoi la Terre du Nord n'a pas de
C'est très simple, mais la réponse après sera plus difficile. Actuellement, la température moyenne de la calotte polaire nord en été est largement supérieure à la température moyenne de la calotte nord en hiver. C'est une histoire d'ellipticité de l'orbite et tout ça. Donc actuellement, même en été, le gaz carbonique reste partiellement sur la calotte sud, alors qu'il s'évapore complètement de la calotte nord. Attendez, je ne sais pas quel est le rythme de la précession des équinoxes sur Mars, mais attendez quelques dizaines de milliers d'années et la situation sera inversée.
S'il vous plaît, compte tenu de l'absence de gravité sur
Mars. Absence de gravité.
Et la gravité très faible.
Oh, le pas si faible que ça. C'est 40% de la gravité de la Terre. On augmenterait mon salaire de 40%, je ne dirais pas que c'est faible. Hein. C'est-à-dire qu'au lieu de peser 120 kilos, j'en peserais 50, c'est pas mal.
C'est l'atmosphère.
Ah ben, c'est pour ça qu'il en reste peu.
Oui, est-il imaginable un jour d'y installer des colonies sans qu'on ait à se balader en scaphandre?
Ah ben, pour l'instant, si vous y allez, c'est le scaphandre, assuré, ça c'est sûr. Alors, si vous voulez remonter la pression atmosphérique de Mars pour qu'on s'y balade sans scaphandre, je ne sais pas où est-ce que vous allez prendre le gaz. Hein. Mais pour l'instant, c'est à peu près les conditions qui règnent à 60 km d'altitude sur Terre. Alors déjà, l'Himalaya, pour y arriver sans masque, il y en a qui le font, mais il n'y en a pas beaucoup. Et sur la Terre, la pression est divisée de moitié tous les 5 km. Donc à 8 km, elle est à peu près un tiers de sol. Un tiers, c'est 30%. Là, il faut descendre à 0,06%. C'est vraiment ridicule. Non, non, les premières personnes sur Mars auront un scaphandre. Mais ça sera plus gênant que sur la Lune, parce que sur la Lune, la gravité était 6 fois plus faible. Donc un gros scaphandre de 100 kg n'en pesait que 20, 15. Là, un scaphandre de 100 kg, il en pesera 40. Ça sera plus. Il faudra faire donner dans la légèreté la miniaturisation des scaphandres. Parce que la gravité n'est pas si faible que ça.
Voilà, je crois qu'on remercie très chaleureusement.